La Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal présente le cours « L'histoire des formes du roman québécois » FRA 2641L, donné par M. Guy Laflèche du département d'études françaises.
Dans les 6 émissions précédentes, on a établi nos présupposés théoriques, c'est-à-dire notre stratégie, qu'on a confrontée à l'indiscipline de l'histoire littéraire. On a fait ensemble un rapide tour d'horizon des études d'ensemble sur le roman québécois et on a passé en revue, de façon plus particulière dans la dernière émission, les études sur Angéline de Montbrun. Mais on avait déjà pris 3 émissions pour mettre sur pied notre tactique, c'est-à-dire la méthode ou le plan que nous adopterons pour esquisser notre histoire des formes du roman québécois. On a d'abord proposé une méthode d'analyse de l'histoire, c'est-à-dire de la substance narrative, puis on a tracé, à partir du livre de Gérard Genette, un ordre d'analyse du récit, soit de la forme narrative, et on a enfin élaboré un modèle théorique du texte romanesque où on a situé la narratologie et où on a défini du même coup la stylistique et la thématique, deux autres sciences de la littérature. On a consacré à tout cela le quart de nos émissions. Mais maintenant, on a fini de tourner autour du pot. On peut commencer la description des 10 romans de notre corpus et j'intitule cette 7e émission « Angéline de Montbrun, le récit ambigu, première partie ». Résumer, nous dit le dictionnaire Robert, consiste à rendre plus court, à abréger, écourter, réduire ou encore à reprendre l'essentiel, c'est-à-dire à récapituler. Il s'agit de l'essentiel de mes notes de lecture et je suppose qu'il en est de même pour vous. Or, si on réfléchit sur le résumé, on se rend compte qu'il s'agit de l'objectif à la fois simple et essentiel de l'analyse structurale du récit. Vladimir Propp, en fin de compte, a simplement mis au point une technique pour résumer les 400 contes de son corpus. On se rend compte aussi que si l'on fait très souvent des résumés et qu'on en lit tous les jours, on ne voit pas toujours ni comment ils sont construits, ni ce qu'ils sont en réalité. En fait, le résumé de l'histoire racontée dans un roman est la description la plus simple et la plus objective qu'on puisse en donner peut-être. Mais un résumé correct ou exact n'est pas aussi facile à établir qu'on pourrait le croire. Et la preuve en est que le résumé d'Angéline de Montbrun a mis beaucoup plus de temps à se réaliser. Vous avez lu le résumé d'Henri Raymond Casgrain à la page 18 de son article à l'appendice A de votre cahier. Vous savez donc qu'il escamote en une phrase toute la première partie du roman pour décrire longuement la deuxième partie et en citer pour finir toute une page. Vous voyez en réalité qu'il ne s'agit pas d'un résumé, mais tout simplement d'un commentaire sur la forme de la deuxième partie, le journal, qui devient, comme il le dit, le seul compagnon de la vie d'Angéline. Bref, il s'agit d'une interprétation et non d'une description de l'histoire, puisque Casgrain nous dit ce qu'il en pense et non ce qui s'y trouve. Par contre, le résumé d'Henri Darles est beaucoup plus objectif, beaucoup plus précis et beaucoup plus long, puisqu'il fait les pages 49 à 61 de son article, que vous trouverez toujours à l'appendice A de votre cahier. Pourtant, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué vous-même, il s'est glissé dans son résumé un certain nombre d'erreurs. À son avis, comme il le dit à la page 50, le roman s'ouvre sur un coup de foudre. C'est faux. Maurice et Angéline sont des amis d'enfance et Maurice est déjà amoureux lorsque le récit commence, de telle sorte que Maurice ne devient pas amoureux d'Angéline, il l'est. Et son âme, comme dit Henri Darles, ne reçoit aucun coup de foudre. Vous voyez ici comme un résumé ne va pas de soi et comme on peut être tenté d'y ajouter facilement des éléments qui ne s'y trouvent pas. C'est parce qu'un roman d'amour commence souvent de cette manière qu'Henri Darles y a ajouté le coup de foudre qui est en fin de compte un lieu commun de ce genre de roman. Deuxièmement, à son avis, encore, c'est à la page 59, Maurice a tenté de revoir Angéline à diverses reprises. C'est encore inexact. D'après la dernière lettre qu'il lui écrit, il ne s'est présenté qu'une seule fois à Valérian, où les domestiques d'Angéline lui ont fermé sa porte. À la page 51, il nous dit que Maurice va passer 2 ans à Paris. On verra que ce n'est pas du tout certain. Enfin, ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'analyse qu'il fait des sentiments de Maurice à la suite de la chute d'Angéline. Écoutons ce texte que vous trouverez à la page 56 de son article.
Nous avons insinué tout à l'heure que le caractère de Maurice Darville était au-dessus de l'humanité moyenne et presque en dehors de nos contingences. Mais voici qu'il y rentre par la façon dont il n'a pu s'empêcher d'aimer Angéline de Montbrun. Cette créature de grâce et de vertu, cette forme céleste, sa fleur des champs comme il l'appelait. Il l'aimait sans doute pour ses qualités intérieures, son innocence absolue. Oui, Maurice adorait Angéline à cause des rayonnances surnaturelles qui l'enveloppaient toutes. Mais il l'aimait encore, il l'aimait surtout à cause de sa beauté. Nous n'allons pas lui en faire de reproches, car cela est très humain. C'est, j'allais dire, dans l'ordre des choses. Certes, il a trop de loyauté. Il est aussi trop chrétien pour reprendre sa parole. Il désire garder sa foi à sa fiancée. Il veut continuer à l'aimer. Mais il se fera, quoi qu'il en ait, un amour de raison, un amour qui se nuancera de pitié pour celle qui a perdu son éclat. Avec sa fine intuition de femme, Angéline perçoit très vite cette transformation du sentiment dans le cœur de Maurice. Et obéissant à une impulsion non moins naturelle que celle qui s'est produite en lui, elle le délie de ses engagements. Elle lui renvoie l'anneau des fiançailles et rompt entièrement avec lui. Et cela aussi est bien humain. La pauvre enfant ne peut accepter un amour mélangé de pitié, où la pitié l'emporterait sur l'amour.
Vous voyez qu'il adopte dans tous ses détails les avis du narrateur et d'Angéline. Il affirme que Maurice aimait Angéline pour sa beauté et que celle-ci, devenue laide, il n'en a plus que de la pitié. On verra au contraire que rien ne nous permet de l'affirmer et que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Angéline et le narrateur le pensent. Ce qui est, vous voyez, tout à fait autre chose. Le résumé d'André Brochu, que vous trouverez à la page 91-92 de son article, est cette fois tout à fait correct, même s'il est présenté en fonction de l'étude thématique qui suit. On n'y trouve, en tout cas, aucune erreur. Il en est de même pour le résumé qu'en a fait Madeleine Gagnon à partir de la page 63 de son article, et cette fois, le résumé est tout à fait central puisque c'est son analyse, l'analyse de ce résumé, qui structure ou qui organise son étude du roman. Or, cet article est de 1972. Vous voyez qu'on a mis 90 ans, presque un siècle, pour le fabriquer. Alors, si on ne veut pas mettre autant de temps pour résumer chaque fois chacun de nos 10 romans, je pense qu'on est mieux de s'interroger tout de suite sur le résumé pour essayer de les faire un peu plus rapidement. Vous voyez en effet que les premières pages du chapitre de votre cahier qui est consacré à Angéline de Montbrun, c'est le premier chapitre de la deuxième partie dont il sera toujours question à partir de maintenant, constitue une explication puis une analyse du résumé de l'histoire que vous trouvez en tête de ce chapitre. Ce résumé, comme vous pouvez le constater, n'est qu'un essai de synthèse des structures événementielles et actentielles du roman, soit les tableaux 5 et la figure 12. Et une fois qu'on aura étudié celui-là, je pense que vous pourrez aisément, à la suite des analyses que nous en ferons, résumer chaque fois les 9 romans qui nous occuperont par la suite. Ce résumé constitue tout simplement la description de l'histoire racontée dans Angéline de Montbrun. Voyez la liste 3 de votre cahier. Il s'agit de la structure événementielle de l'histoire racontée dans Angéline de Montbrun. Vous connaissez évidemment la situation initiale du roman. Elle situe l'histoire qui va se dérouler en un certain lieu, c'est Valrian, et en un certain temps, c'est le printemps, de même que les personnages, c'est-à-dire la structure actentielle que vous trouvez représentée au numéro 1 de la figure 12. Maurice, amoureux, est en quête d'Angéline, aidé de Mina, sa sœur. Il doit, en quelque sorte, vaincre ou conquérir Charles, le père de Maurice. Vous connaissez aussi la situation finale, celle qui ferme le roman. Angéline, qui a refusé Maurice, s'enferme à Valrian où elle écrit son journal. Demandez-vous maintenant quel est l'événement qui vous paraît le plus important de cette histoire. Vous voyez que la situation initiale est dominée par le bonheur, tandis que la situation finale est au contraire dominée par le malheur. Alors, quel est l'événement qui renverse le bonheur de la situation initiale et qui établit le malheur de la situation finale? Vous répondez correctement si vous dites que c'est la mort de Charles de Montbrun, puisque cette mort renverse complètement le sens du roman. Sans cette mort, vous voyez que l'événement 4A du tableau 5 se serait réalisé, c'est-à-dire que le roman aurait fini en beauté par le mariage de Maurice et d'Angéline. La mort du père est donc un événement narratif de cette histoire. C'est le malheur. Ce malheur qui correspond au méfait, voyez la liste 1, l'événement narratif essentiel que Prop a trouvée au centre de tous les contes merveilleux. Vous voyez pourquoi on dit que cet événement est un événement narratif, ou en tout cas un événement narratif proprement dit. Tout simplement parce qu'il est essentiel à l'histoire et que sans lui, elle serait profondément transformée, puisque l'événement 4A du tableau 5 se réaliserait et que la situation finale serait changée. Prenez le tableau 8 et voyez l'événement décrit en regard du 4 juin. C'est la mort de Véronique Desilleux, un événement tout à fait semblable, vous le voyez, à la mort de Charles de Montbrun. Mais vous pouvez bien soustraire la mort de Véronique Desilleux de l'histoire que rien ne serait changé. On dit que c'est un événement qualificatif ou attributif et non pas un événement narratif, puisque cet événement, au lieu de faire avancer le déroulement de l'histoire, le retarde. On dit dans ce cas que c'est un événement catalyse. Voyez encore le tableau 2. Et s'il sert uniquement à qualifier, par exemple ici, la bonté de Charles qui avait donné à Véronique Desilleux sa terre, de même que la bonté d'Angéline qui la donne à son tour à Maurice Desrochers, on dit que c'est un événement attributif. Mais on reviendra sur les événements qualificatifs ou attributifs du journal qui sont consignés dans ce tableau 8. Revenons pour l'instant à la liste 3. Vous avez peut-être répondu tout à l'heure que l'événement essentiel de l'histoire racontée dans Angéline de Montbrun était non pas la mort de Charles de Montbrun, mais la chute d'Angéline, son opération ou sa laideur. Ou encore, la pitié de Maurice telle que l'affirme et le suppose le narrateur. Et vous aviez dans tous les cas tout à fait raison. On trouve là une loi qui a été dégagée par Vladimir Prop dans son étude sur le conte merveilleux et qu'il a appelée la loi du triplement. C'est en effet une loi peut-être étrange, mais qu'un psychologue expliquera certainement un jour, et une loi tout à fait générale du conte merveilleux que de tripler les événements qui se trouvent ainsi mis en relief. En tout cas, vous voyez bien que ces trois événements, qu'on peut nommer la chute de Charles, la chute d'Angéline et la prétendue chute de Maurice, d'abord sont nettement liés de cause à effet, puisque les trois chutes s'entraînent l'une l'autre. On peut dire que la chute de Charles entraîne Angéline qui entraîne à son tour Maurice dans sa chute. Ensuite, que ces trois événements représentent ensemble l'événement général qu'on a appelé le malheur, qui renverse la situation initiale heureuse en la situation finale malheureuse. Ce malheur entraîne ce que j'appellerai la rupture de contrat, soit de la promesse de mariage qui avait été faite 1 ou 2 ans auparavant. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour distinguer les autres événements narratifs que je place dans la liste 3. D'abord, l'épreuve. Maurice doit faire la grande demande, c'est-à-dire sa demande en mariage à Charles de Montbrun, et le triplement de cette épreuve. Après 2 tentatives infructueuses, il décide de l'écrire à Charles. Alors surgit un obstacle, puis une faute, qui font partie, encore une fois, de l'épreuve. Obstacle, Angéline entraîne Maurice à l'étang du cygne, et faute, Maurice se déclare à Angéline avant d'avoir parlé de son amour à son père. Mais l'obstacle sera levé et la faute pardonnée par Charles, à qui Maurice l'avoue. L'obstacle et la levée, la faute et son pardon, sont des événements catalyses, puisqu'ils ont pour fonction de retarder le déroulement de l'histoire, c'est-à-dire de créer le suspense. Il s'agit aussi d'événements attributifs, puisqu'ils servent d'indices. Ils sont symptomatiques de la timidité et de l'amour de Maurice. Mais leur fonction essentielle, encore une fois, est de retarder l'événement suivant, soit le contrat ou les conditions acceptées. Angéline ne se séparera jamais de son père et n'épousera Maurice que dans 2 ans. Alors suit la quête ou l'attente. Maurice séjourne 1 ou 2 ans en France. À son retour, vous le savez, c'est le malheur, la rupture de contrat et la situation finale malheureuse. Une rapide analyse de cette histoire peut mettre en relief ses deux qualités essentielles, soit sa simplicité et surtout son ambiguïté. Lorsque vous le relierez la liste 3, vous verrez que cette histoire est très simple et qu'elle est assez proche de celle qu'on trouve dans les contes merveilleux, sinon qu'elle finit mal. Épreuve, contrat, quête, malheur, etc., sont des événements qui appartiennent d'ailleurs aux contes merveilleux, et il n'est qu'à jeter un coup d'œil sur les attributs des personnages pour se rendre compte qu'il s'agit presque d'un conte de fées. Princesse Angéline, 18 ans, belle, blonde, riche et heureuse, bref, parfaite. Le roi, son père, Charles de Montbrun, beau, riche et heureux, en fin de compte, lui aussi, tout aussi parfait. Prince Maurice, évidemment, beau et jeune, loyal et franc, poète et chanteur. Un seul défaut, il est timide. Qualité d'un amoureux, vous le savez. Servante ou confidente, enfin, Mina. Elle n'a que 2 défauts. Elle est mondaine, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'amoureux, dont un révérend pasteur, et elle est lectrice de romans. Défaut pas bien méchant, d'autant plus qu'elle finit par se cloîtrer. Partout donc règne la perfection. Remarquez d'abord l'extrême simplicité des attributs des personnages, ce qui tient, je pense, au caractère typique de ces personnages. Mais on trouve déjà là l'indice d'une certaine ambiguïté, puisque c'est en dépit de cette perfection que le malheur va finalement s'installer. Puisque c'est un amoureux parfait, à qui on va découvrir une faute ou un défaut presque aussi parfait, c'est pitié. Bref, on en fera un amoureux qui manque d'amour. Et cette première ambiguïté est déjà marquée dans le renversement de l'histoire. D'abord, c'est le malheur considéré en soi. On veut bien que la chute d'Angéline soit fatale, comme la prétendue chute de Maurice. Dans les deux cas, ce sont les héros de l'histoire qui sont frappés par le malheur. Mais la chute essentielle, et celle qui entraîne les deux autres, est celle du père. Or, celui-ci ne devrait être qu'un personnage secondaire, du moins dans une histoire d'amour. Ensuite, cette ambiguïté se retrouve dans l'effet de ce malheur qui se trouve analysé dans le tableau 5, où vous voyez que ce malheur, c'est l'événement 5, d'abord, empêche la situation initiale, la situation finale attendue, de se réaliser, c'est-à-dire le mariage, soit l'événement 4A, ensuite désorganise tout à fait le déroulement événementiel. Tandis qu'on pouvait supposer que Maurice et Angéline étaient tous deux l'un en quête de l'autre dans la première partie, voilà que maintenant ils se situent de façon opposée. Maurice est toujours en quête d'Angéline, c'est l'événement 6.1, tandis qu'Angéline entreprend une quête, ce qu'on appellera la non-quête de Maurice, événement 6.2. Ce changement correspond à l'inversion de la structure événementielle telle qu'elle se trouve représentée dans la figure 12 dont on verra la prochaine fois la signification des parenthèses. Avant la mort de Charles, Maurice est en quête d'Angéline et aidé de Mina, il doit vaincre ou convaincre Charles. Cette structure actancielle, où Maurice est présenté comme le héros, restera vrai tout au long de l'histoire. Mais avec la mort de Charles, une deuxième structure actancielle se superpose à la première, et cette fois, c'est Angéline qui en est l'héroïne. On pourrait dire qu'elle est en quête de Maurice, puisqu'elle dit l'aimer toujours, mais qu'aidée de Dieu, elle le refuse pour son père, mort, qui fait alors figure d'opposant. Mais on peut dire plus simplement, comme tout à l'heure, qu'elle entreprend la non-quête de Maurice, c'est-à-dire qu'elle va apprendre peu à peu à se refuser à aimer Maurice et surtout à se refuser à en être aimé. J'espère que ma description ne vous paraît pas trop compliquée. Il s'agit d'une histoire ambiguë, mais il est assez difficile de rendre compte facilement de l'ambiguïté même simple d'une histoire. Vous voyez en tout cas que la suite des événements narratifs, c'est la liste 3, comme les attributs des personnages, sont aussi et même plus simples que dans un conte de fées. Mais la nature du malheur, c'est la mort du père, son effet sur la structure actancielle, la distinction de la quête de Maurice et de la non-quête d'Angéline, de même que sur la structure actancielle, le changement de focalisation de Maurice à Angéline, c'est-à-dire le fait qu'Angéline prenne la place de Maurice comme personnage principal ou héros de l'histoire, tout cela montre que l'histoire simple, racontée dans Angéline de Montbrun, est aussi une histoire ambiguë. Je peux encore illustrer cette ambiguïté par deux autres éléments, le temps et le lieu de l'histoire. Le temps de l'histoire. Comme vous le lirez dans la remarque qui suit le tableau 6, la chronologie d'Angéline de Montbrun est extrêmement ambiguë et il est difficile de savoir d'abord, si Maurice passe 1 ou 2 ans à Paris. Ensuite, si Angéline écrit son journal 1, 2 ou 3 ans après la mort de son père. Elle écrit dans le fragment du 19 septembre, c'est à la page 163, que ce sera demain le 3e anniversaire de sa mort. Et en effet, Charles est bien mort dans un accident de chasse le 20 septembre. Mais jusque-là, tout laissait croire que c'était l'automne précédent. Mais on reviendra sur la structure temporelle de ce roman au début de la prochaine émission. En ce qui concerne enfin le lieu de l'histoire, vous voyez d'abord que tout ce qui est raconté se passe à Valrian, le domaine des deux Montbrun, mais que les malheurs se situent généralement en dehors du domaine et ensuite sont toujours racontés brièvement, sinon passés sous silence. Soit le séjour de Maurice à Paris, dont on ne sait rien, puis le séjour d'Angéline à Québec, après la mort de Charles, où tous les malheurs s'abattent sur elle en même temps. Vous voyez ensuite que la valeur symbolique de Valérian, comme vous le lirez dans l'extrait 1 de votre cahier, suit le renversement de l'histoire. C'est d'abord le lieu parfait du bonheur, puis, après la mort de Charles, c'est ensuite le lieu de l'enfer, celui de la vie quotidienne. Mais on verra dans la prochaine émission que si l'histoire racontée d'Angéline de Montbrun est ou paraît ambiguë, c'est qu'on ne peut en prendre connaissance qu'à travers un récit fondamentalement ambigu.
Le cours « L'histoire des formes du roman québécois » a été donné par M. Guy Laflèche. Narration Thérèse Touin, prise de son Claude Garot, mise en onde Thérèse Touin. Thank you.